Chantal Eméhoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maire d'Embrun, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, présidente de la communauté de communes Serre-Ponçon. Ça y est, vous l'avez dévoilé en début de semaine. Vous repartez à l'assaut de la Nice des Alpes. Ça fait depuis 2001 que vous êtes édile, maire au sein de la commune. En 2020, ce sera encore avec vous dans les urnes. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre et reprendre cette décision ?
On a tout d'abord changé la ville donc au cours de ces années précédentes, un bon bilan dans un certain nombre de secteurs qui sont vraiment des secteurs attendus par nos concitoyens, que ce soit dans le domaine de l'environnement, avec tout le travail que nous avons fait sur la transition énergétique, l'agriculture, la forêt, la biodiversité, les chaufferies, le transport collectif gratuit, que ce soit sur la trajectoire culturelle et sportive. On a quasiment rénové la totalité de notre patrimoine, mais également de nos structures sportives que l'on a soit rénovées, soit construites. Je pense notamment au centre aquatique, que ce soit sur la logique touristique et économique, où on a vraiment fait un maximum pour que notre ville, notre plan d'eau, le centre ancien, soit beaucoup plus attractif qu'avant, et que notre économie puisse être confortée avec la création d'emplois, que ce soit au niveau social, où nous avons privilégié le bien vivre ensemble avec toute une série d'actions pour que un très bon état d'esprit embruné puisse régner au sein de cette ville. Tout cela en désendettant fortement notre collectivité, puisqu'aujourd'hui les finances sont saines.
Alors en effet, il y a eu un pic d'endettement, c'était en 2010, hein, c'était 21 millions d'euros selon les chiffres du ministère de l'économie. En 2017, c'était à peu près 11,5 millions pour Embrun. Ça reste quand même plus élevé que les villes de même strate, hein. On est à 1 752 € de dette par habitant contre 858 € pour des villes similaires.
Alors, donc les chiffres sont pas tout à fait exacts, puisque en fin 2019, début 2020, l'endettement par habitant est de 1 420 €, donc contre 2 300 € en 2014. Donc en l'espace de, donc au cours de ce dernier mandat, on a considérablement diminué la dette. Donc le fait que cet endettement soit à Embrun plus important que dans des villes de même strate est logique et normal, puisque Embrun est le bourg-centre du canton d'Embrun. C'est une ville qui a des charges de centralité, notamment au niveau de certains services publics, sur toutes les structures sportives et culturelles qui servent pas seulement aux Embrunaises et aux Embrunais, mais également à l'ensemble des habitants du canton et bien au-delà. Par conséquent, la ville est équipée de structures et de bâtiments communaux qui sont beaucoup plus importants ici, du fait de la centralité et du côté et de l'aspect touristique de la ville, qu'une ville de même strate d'environ 7000 habitants qui n'aurait évidemment pas les mêmes contraintes, ni d'ailleurs les mêmes avantages en termes de tourisme qu'Embrun.
Donc on l'a compris, il y a des charges. Toutefois, est-ce que ça veut dire que cette dette ne peut pas diminuer dans les années à venir ?
Bien sûr que si, puisque depuis 10 ans, nous n'avons plus emprunté ou pratiquement plus emprunté. Fin 2019, donc nous avons contracté un petit emprunt pour doter la ville d'une balayeuse électrique, puisque les nôtres étaient en train de nous lâcher. Mais nous n'avons donc en 10 ans plus contracté d'emprunt, et par conséquent, on envisage aussi de faire baisser donc le taux d'endettement. Tout cela est rendu possible par le fait que tous les aménagements, tous les investissements que nous avons réalisés au cours de ces dernières années, et notamment au cours de ce mandat depuis 2015, ont bénéficié de taux de subvention exceptionnels, en gros entre 70 et 90, voire 95%, parce que ma position de deuxième vice-présidente de la région me permet là aussi d'avoir des leviers pour pouvoir faire mieux financer nos dossiers. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément donc là, le travail en très bonne intelligence que je mène, que nous menons avec l'équipe, avec les services de l'État, où nous avons aujourd'hui bâti une relation solide de confiance qui fait que l'État nous accompagne aussi beaucoup sur nos investissements. Sinon, ces investissements n'auraient pas pu être faits. ou bien retardés à une époque donc beaucoup plus lointaine, ou bien avec une augmentation des impôts qui n'aurait pas été soutenable et que je n'ai pas voulu avec l'équipe.
Vous n'avez donc pas eu recours au levier fiscal. Est-ce que, vous le disiez, on va le diminuer ce taux d'endettement. Est-ce que par la suite, on peut aussi imaginer que le taux d'impôt baisse ?
Non, je pense que donc diminuer les impôts au regard donc aujourd'hui de l'augmentation des charges qui sont indépendantes de la volonté des collectivités, quelles qu'elles soient, par exemple la masse salariale, même si vous n'augmentez pas donc le nombre d'agents, la masse salariale augmente de fait du fait de l'augmentation des salaires et de ce fameux glissement vieillesse-travail qui amène les collectivités à avoir plus de dépenses du fait des augmentations des retraites, des augmentations de charges diverses qui font que de fait ça augmente tout naturellement. On a également les augmentations de l'eau, l'électricité, les transports, de toutes les charges. Les charges à caractère social qui sont importantes, par exemple, au niveau de notre centre communal d'action sociale d'Embrun, qui est municipal, nous avions avant une aide de 655 000 euros. En 2019, il a fallu rallonger 80 000 euros parce que nous avons de plus en plus de personnes qui sont dans la difficulté, que nous devons accompagner, parce que la solidarité dans une collectivité comme la nôtre, elle a du sens et que nous souhaitons là aussi être aux côtés des plus fragiles en leur apportant les aides et les accompagnements et les soutiens nécessaires.
Je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques instants. Nos projets ont pu être soutenus et bien soutenus, entre 70 et 95% de subventions, notamment parce que vous avez, en tant que deuxième vice-présidente au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une entrée. C'est un petit peu ce que vous avez déclaré à nos confrères du Dauphiné Libéré ce lundi soir. Je peux faire avancer les choses de manière plus rapide avec des financements donc sur les projets.
Oui.
C'est presque injuste, j'allais dire, pour les autres maires d'autres communes qui ne sont pas vice-présidents au sein de la région et qui, eux, ont du mal à être financés.
Alors, il existe donc au niveau de la région toute une série de dispositifs permettant d'aider les collectivités. Moi, je suis donc vice-présidente de la région pour toutes les communes et je suis là pour aider toutes les collectivités. Je l'ai beaucoup fait au sein de mon intercommunalité puisque les financements que j'évoquais à l'instant entre 70 et quasiment 100%, parce que pour la cathédrale, pour les bâtiments classés ou inscrits, on peut aller jusqu'à 100% de financement. Donc, c'est évidemment ce que je fais pour la cathédrale et pour l'archevêché, mais je suis là au service de toutes les collectivités pour les aider à trouver les conditions d'un financement optimal. Et les collectivités, les maires le savent, puisque régulièrement ils font appel à moi, dans le cadre des fonds régionaux d'aménagement du territoire, du contrat station de demain, de l'ensemble des dispositifs, donc tous les dispositifs sur la transition écologique, énergétique, donc la COP d'avance, donc tous ces sujets d'aménagement du territoire, du tourisme. Un exemple concret. Donc Serre-Ponçon vient d'être labellisé comme une marque infra-régionale, puisque après les trois grandes marques Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a sept marques infra-régionales de la région qui ont été labellisées, dont Serre-Ponçon. Pour Serre-Ponçon, j'ai obtenu un financement de 100 000 euros que la région va verser à l'Office de tourisme intercommunal pour développer l'action touristique de notre communauté de communes. Donc là, c'est la solidarité. Et on peut faire la même chose également avec les territoires voisins, puisqu'on vient de labelliser également le territoire des Écrins comme marque infrarégionale, et que j'ai souhaité raccrocher le Champs-sur-Val-Godemar, le Gapensé, mais également le Guillestroy-Quira à notre marque Serre-Ponçon, là aussi pour permettre de tirer vers le haut l'ensemble de ces territoires qui sont autour de nous. Moi, j'ai toujours joué collectif, que ce soit au sein de la région, que ce soit bien sûr au sein de la communauté de communes de Serre-Ponçon, et bien évidemment avec mon équipe où je ne cesse de jouer collectif, en concertant, en rassemblant.
Vous aurez toutefois un échec dans votre bilan. Je rappelle que vous êtes aussi président de la conférence sanitaire de territoire dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Il y a quelques jours en arrière, Philippe de Mester, le directeur de l'Agence régionale de santé, l'annonçait, Embrun n'accueillera pas de scanner. Je le cite, pour avoir un scanner, il faut avoir des radiologues et des manipulateurs. Il faudrait aussi envisager un partenariat entre public et privé, mais le niveau d'activité de l'hôpital d'Embrun ne justifie pas pour l'instant que l'on installe un scanner pour lui tout seul.
Alors, aujourd'hui, et bien sûr, après l'avoir rencontré, vous imaginez bien que si j'ai évoqué l'idée de l'installation d'un scanner, ce n'est pas sans avoir fait le point avec le directeur régional de l'agence. Aujourd'hui, monsieur de Mester a raison, dans la mesure où l'hôpital d'Embrun est un hôpital qui, s'il devait rester dans les locaux où il est situé actuellement, ne pourrait absolument pas rassembler les conditions nécessaires de développement pour pouvoir accueillir radiologues, scanners et autres. Ça, c'est le premier point. Nous avons pris la décision et monsieur de Mester l'a acté oralement, verbalement, il doit l'acter donc d'une autre façon dans les prochaines semaines, le fait que l'hôpital d'Embrun allait intégrer dans les prochaines années un bâtiment tout neuf. Donc nous allons construire un hôpital neuf à Embrun. En tout cas, c'est la piste que monsieur de Mester a choisi, et je partage cette position avec lui. C'est la seule solution, parce que sinon, dans quelques années, notre hôpital est mort, c'est même plus la peine. Donc, la construction de ce nouvel équipement va nous permettre d'envisager l'avenir d'une toute autre façon, avec, là aussi, non seulement le maintien des urgences, mais là-dessus, il l'a acté, et c'est une très bonne chose, mais aussi l'installation d'un scanner qui n'est ni plus ni moins qu'un équipement de la radiologie d'aujourd'hui, actuelle, avec, bien évidemment, la présence des radiologues nécessaires. D'ailleurs, pour information, lors des vœux du centre hospitalier de la semaine dernière que nous avons formulé avec le directeur du groupement hospitalier de territoire et le directeur délégué, ils ont donc tous les deux évoqué le fait qu'un radiologue avait été recruté sur le centre hospitalier d'Embrun et qu'il allait rejoindre l'équipe dans les prochaines semaines.
Donc il y aura un scanner dans les prochaines années sur l'hôpital d'Embrun parce qu'il y aura un nouveau bâtiment. L'échéance, c'est quoi ?
Alors, pour avoir un scanner, pour terminer sur l'affaire du scanner, il nous faut des autorisations. Aujourd'hui, nous ne les avons pas. Donc, il faut attendre le prochain schéma régional d'organisation des soins, le prochain SROS, qui devrait s'élaborer en 2021. Et c'est là que donc l'installation d'un scanner devrait être prise. En sachant que le financement du scanner, environ 600 000 euros, a été acté par la région, par Renaud Muselier, qui a fait le point avec moi là-dessus et qui a décidé que ce serait la région qui financerait le scanner. Concernant la construction du nouvel hôpital, aujourd'hui, le cahier des charges a été rédigé par le directeur, par le directeur du groupement hospitalier de territoire en lien avec les équipes médicales et le directeur délégué, les équipes médicales de l'hôpital d'Embrun. C'est entre ce cahier des charges et entre les mains du directeur régional, monsieur de Mester, qui va bien sûr, qui doit valider, acter tout ce qui a été proposé. Ensuite, il va y avoir la phase de définition du contenu de ce qu'il y aura précisément au sein de l'hôpital et lancement d'un dialogue compétitif, soit d'un concours d'architectes, plus toutes les démarches administratives. Globalement, on peut imaginer que fin 2021, l'ensemble de ces démarches devraient être terminées et que fin 2021, le temps du dépôt de permis ou tout début 2022, les travaux du nouvel hôpital pourraient démarrer. Et on sait que dans ce genre d'équipement, il faut à peu près 2 ans de travaux. Donc globalement, on peut imaginer que aux alentours de 2024, 2024, 2025 maximum, mais probablement avant, dans les 5 ans qui viennent, on devrait avoir ici sur notre territoire un nouvel hôpital. Enfin, concernant la santé, puisque vous m'interrogez là-dessus, je voudrais signaler que le nombre de médecins libéraux et spécialistes en Embrun est en hausse. Nous n'avons jamais eu autant de médecins généralistes et de médecins spécialistes installés en Embrun. C'est aussi le résultat d'un travail en lien à la fois avec l'Agence régionale de santé, le lien entre médecine publique et médecine privée qu'appelait de ses voeux monsieur de Mester et qu'on a commencé à mettre en place, la création d'une maison de santé qui est installée en plein centre-ville dans l'île au théâtre, et enfin donc la poursuite de cette activité pour faire venir de jeunes médecins, puisque un rhumatologue s'installe à Embrun début février et qu'on est sur la piste d'installation d'un cardiologue.
Donc en tout cas, vous le confirmez ce matin sur Alpe 1, il y aura bien un nouvel hôpital sur Embrun.
Oui, tout à fait. On attend Que M. de Maistre acte définitivement cette piste, parce que l'administration française, donc nous la connaissons tous, elle a besoin de suivre un chemin qui nous paraît souvent compliqué, mais c'est comme ça, c'est la règle ici en France, et donc nous attendons que ce soit acté. Mais M. de Maistre nous avait indiqué qu'il souhaitait que ce soit un hôpital neuf qui soit la solution aujourd'hui aux difficultés que nous rencontrons.
Dernière question. Dernier mot politique, peut-on dire que pour ces municipales à Embrun, ce sera une lutte fratricide, puisque vous aurez face à vous votre ancien conseiller municipal, Marc Viossa?
Écoutez, Monsieur Viossa fait un choix très personnel d'être candidat. Donc c'est depuis que je suis maire, au sein des différentes équipes avec lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours eu une immense solidarité, un travail d'union, de groupe, auquel il a participé pendant plus de 18 ans. Nous avons été très surpris d'un choix tout à fait personnel de sa part. C'est son choix. Je ne fais pas de commentaires particuliers. En tout cas, j'ai autour de moi cette équipe et ces anciennes équipes qui sont vraiment solidaires et soudées. Nous nous sommes serrés les coudes. Nous avons traversé des épreuves. Nous avons beaucoup bâti ensemble. Et je vois dans cette affaire-là beaucoup de positif, de la solidarité, du rassemblement, de l'union. Pour moi, c'est ce qui compte.
Merci beaucoup, Chantal Emeaux, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1 dans le 8-30. Je rappelle que vous êtes maire d'Embrun et donc candidate à votre propre succession. Merci.
Merci.